France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les leaders iraniens qui tombent les uns après les autres. Le dernier en date ce matin, c'était le plus haut gradé du pays, le renseignement israélien. Extrêmement précis, explication dans un instant. Nous serons aussi aux États-Unis où Donald Trump a mouché Emmanuel Macron hier soir. Le président américain qui hésite maintenant sur la marche à suivre. Et puis à partir de 13h30, nous posons la question des armes nucléaires au cœur de ce conflit. Qui a la bombe aujourd'hui ? Pourquoi est-ce une garantie de paix pour ceux qui en disposent ? 01 45 24 7000 pour vos questions. À suivre encore le conclave sur les retraites, dernier jour de négociation, et ça piétine. Un tribunal en ligne directe avec les maires. Bonjour Delphine Evenoux.
Bonjour.
Tout cela pour lutter contre les violences dans les familles.
Oui, grâce à une convention qui va permettre aux élus de savoir qui a interdiction de paraître dans leur commune. Les gendarmes peuvent intervenir plus rapidement et la justice sait si ces décisions sont respectées.
Ça se passe à Libourne. En Gironde. Faut-il faire payer les ponts qui mènent à nos îles, îles d'Oléron ou îles de Noirmoutier ? Les élus le demandent, nous les écouterons. Le vol des fruits dans les vergers en ce printemps, parfois en bande organisée ici dans la Loire.
C'est des gens qui viennent avec plusieurs véhicules, qui prennent des grosses quantités, c'est-à-dire qu'ils sont déposés à 8-10 personnes et ils ramassent et les véhicules repassent, ils chargent tout dans le coffre et ils sont bons comme ça.
Reportage dans quelques minutes et puis nous verrons que c'est le désamour entre les jeunes et l'application de rencontres. Tinder, 13h50, c'est la France. Les kermesses d'école, cette saison, sont-elles de plus en plus vertes ? Cyril Petit du journal Ouest France mène l'enquête. Juste avant 14h, c'est une chanson. L'humoriste Redouane Bougueraba demande le guitariste Sébastien El Château. Et puis le temps de ce mardi, de plus en plus chaud, nous dira Élodie Calac dans une demi-heure. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est une véritable campagne d'élimination que mène Israël. Depuis le début des bombardements sur l'Iran il y a 5 jours, les sites militaires sont visés, il y a aussi des victimes civiles. Mais on est frappé par le nombre de dignitaires du régime iranien assassinés par des frappes. Chef d'état-major, chef du renseignement, chef des gardiens de la révolution, certains l'ont même été à leur domicile, comme s'ils étaient inconscients du danger et de leur vulnérabilité. Encore ce matin, un commandant militaire présenté par Israël comme la figure la plus proche du guide suprême iranien. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Marie-Pierre, vous êtes notre envoyée spéciale, notre correspondante dans la région en Turquie. Cette liste est impressionnante.
Ah oui, l'État hébreu raye chaque jour de nouveaux noms sur cette liste des plus hautes personnalités du régime et de l'armée. Dernier en date, vous le disiez, le nouveau chef d'état-major Ali Shadmani, nommé il y a quelques jours à peine après l'élimination de son prédécesseur dans les toutes premières heures des frappes israéliennes. Shadmani supervisait aussi le corps des gardiens de la révolution. Ce sont donc les deux institutions sécuritaires les plus hautes, les protecteurs aussi du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, qui sont méthodiquement ciblés. Le commandant de la force aérospatiale a aussi été tué, alors même qu'il était en réunion avec ses adjoints, le chef des gardiens de la révolution, Salami, mais encore 3 généraux des renseignements, dont leur chef, ainsi que le plus proche conseiller d'Ali Khamenei, sans oublier ses scientifiques qui travaillaient sur le programme nucléaire de l'Iran. Et la précision de ses frappes sur la garde rapprochée du guide suprême montre bien à quel point les services israéliens ont infiltré les rouages du régime iranien. L'Iran a d'ailleurs déjà arrêté, Jérôme, plusieurs espions agissant pour le compte de l'État hébreu.
Alors, vous avez cité le guide suprême iranien. Les Israéliens vont-ils aller jusqu'à le cibler ?
Écoutez, la question est dans toutes les têtes, bien sûr, alors que Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, cache de moins en moins sa volonté d'éliminer sa bête noire. Cela permettrait de mettre fin au conflit, disait-il hier, parlant de cette opportunité qui s'ouvre de remodeler le visage du Proche-Orient. Le ministre de la Défense israélien menace même ce matin Khamenei d'un sort à la Saddam Hussein. Ali Khamenei qui ne s'est pas exprimé depuis ce week-end et cette allocution où il promettait, je cite, d'apporter la ruine au régime sioniste.
Et on comprend cette discrétion. Merci Marie-Pierre Véraud. Depuis 5 jours, les pays arabes et musulmans de la région sont spectateurs du conflit. 20 d'entre eux ont appelé hier soir à la création d'une zone sans armes nucléaires au Moyen-Orient. Parmi eux, le roi de Jordanie, Abdallah II, qui s'est exprimé il y a quelques minutes. C'était devant le Parlement européen à Strasbourg.
Now. Maintenant qu'Israël étend son offensive militaire à l'Iran, on ne sait pas jusqu'où s'étendra ce champ de bataille. Et cela, mes amis, constitue une menace pour la région et au-delà.
Les mots du roi de Jordanie Abdallah II ce matin, la nuit dernière et encore ce matin, des missiles et des éclats d'obus sont tombés en Israël dans la région de Tel Aviv. Pas de blessés en Iran. D'importantes explosions ont été entendues dans la ville de Tabriz. C'est au nord-ouest du pays et face au risque en Iran, plusieurs pays étrangers évacuent leurs ressortissants. 600 représentant une quinzaine de pays ont rejoint l'Azerbaïdjan, pays voisin depuis le début de cette guerre. Alors quelle issue pour ce conflit? La Chine appelle à apaiser les tensions mais reste en retrait, tout comme la Russie qui ne vole pas au secours de son allié iranien. C'est donc le meilleur allié d'Israël, Donald Trump, qui semble avoir la clé ces prochains jours. Trump qui a quitté la nuit dernière le G7, le sommet des dirigeants des 7 pays occidentaux les plus riches, qui se déroule toujours au Canada. Il est rentré ce matin à Washington. Bonjour Benjamin Hilly.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Atlanta aux États-Unis où il est 7h du matin. Le président américain s'est payé Emmanuel Macron la nuit dernière sur les réseaux sociaux.
Oui, car le président français a déclaré que Donald Trump partait négocier un cessez-le-feu. Donald Trump a précisé sa pensée dans l'avion qui le ramenait vers Washington. Emmanuel, c'était un chic type, mais il n'a pas raison très souvent et il va plus loin sur son réseau social, le président américain. Voici ce qu'il écrit. Ça n'a rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est beaucoup plus gros que ça. Volontairement ou pas, Emmanuel ne comprend jamais rien. Fin de citation. Alors, au journaliste qui l'accompagnait dans le vol retour vers la Maison-Blanche, Donald Trump a dit qu'il souhaitait obtenir une fin réelle, pas un cessez-le-feu. Il faut un abandon complet de l'Iran, sans préciser s'il parlait d'un abandon du programme nucléaire iranien ou d'autre chose. Des déclarations confuses, parfois contradictoires, qui entretiennent le flou sur ses intentions. À bord d'Air Force One, il a indiqué qu'il envisageait de mobiliser son envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, ou son vice-président J.D. Vance, pour discuter avec des responsables iraniens, tout en précisant qu'il n'était pas spécialement d'humeur à négocier avec Téhéran. Israël, de son côté, continue de mettre la pression pour que les États-Unis participent activement au conflit afin de frapper efficacement la centrale nucléaire de Fordo en Iran, profondément enfouie. Seuls les États-Unis disposent des avions et des bombes nécessaires. Et par ses déclarations, Donald Trump laisse toutes les options sur la table.
Merci Benjamin Hilly pour ces précisions en direct des États-Unis. Ce matin, les cours du pétrole ont encore augmenté dans ce contexte. Par exemple, le prix du baril de Brent de la mer du Nord a augmenté de 1,65%. Et pendant ce temps-là, en Ukraine, une autre guerre se poursuit et continue de faire des victimes civiles. Au moins 15 personnes sont mortes à Kiev la nuit dernière dans ce que le président ukrainien qualifie de l'une des pires attaques russes contre la capitale. Bonjour Stanislas Poyer.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Kiev. Les Russes ont lancé plus de 400 drones, nous disent les Ukrainiens.
Oui, les sirènes ont hurlé une bonne partie de la nuit ici à Kiev. L'attaque a commencé peu après 21h pour ne s'achever qu'à 8h30 ce matin. Alors d'après les autorités ukrainiennes, près de 428 engins, dont 280 drones kamikazes et une trentaine de missiles ont été lancés sur l'Ukraine et principalement sur Kiev. Une nouvelle attaque massive comme l'Ukraine en connaît très régulièrement depuis le début du mois de mai. Alors l'aviation ukrainienne affirme avoir intercepté la majorité des projectiles. Certains ont frappé toutefois des zones habitées comme à Solyumanska dans l'ouest de Kiev où un immeuble a été éventré. Les secouristes fouillent toujours les décombres où des personnes pourraient encore être coincées. Alors 15 personnes ont été tuées, plus de 100 blessés, parmi lesquels un citoyen américain de 62 ans. Les dégâts ont aussi été signalés dans 7 autres districts de la capitale où des écoles, des logements, une résidence universitaire et même un jardin d'enfants ont été touchés. Selon le maire de Kiev, des bombes à sous-munitions interdites par la Convention d'Oslo en 2008 ont même été retrouvés sur l'un des sites touchés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un acte de terrorisme pur, des frappes délibérées selon lui, alors que se tient en ce moment même le sommet du G7 au Canada.
Merci Stanislas Poyer pour ces informations en direct de Kiev. Les Russes ce matin ont annoncé qu'ils allaient faire appel aux Coréens du Nord pour reconstruire leur région de Koursk. C'est une région qui avait été partiellement occupée par les Ukrainiens pendant plusieurs mois, eh bien, les Nord-Coréens vont envoyer en Russie pour aider les Russes plusieurs milliers de sapeurs militaires et d'ouvriers. Ils sont moins nombreux qu'il y a 4 mois autour de la table. Les syndicats CGT et Force ouvrière pour les salariés, l'UDP pour les patrons ont claqué la porte des négociations sur les retraites. Ceux qui restent ont estimé que les discussions pouvaient aboutir. C'est pour aujourd'hui, dernier jour du conclave voulu par le Premier ministre pour aménager la réforme des retraites de 2023. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Vous êtes sur place, là où ont lieu les négociations, c'est à Paris, dans le 7e arrondissement. Touché à l'âge de départ, 64 ans, ça semble hors sujet. Les échanges portent surtout aujourd'hui sur la pénibilité et sur le travail des femmes.
Et il y a un premier petit bouger sur la prise en compte des carrières des femmes, justement souvent hachées. Au lieu des 25 meilleures années, les syndicats proposaient de prendre en compte les 22 ou 23 meilleures années pour augmenter le niveau des pensions. Le MEDEF semble accepter à la mi-journée un calcul sur les 23 ou 24 meilleures années. Mmh. La situation n'est pas bloquée, insiste la CFTC, mais la CFDT est beaucoup plus réservée, attendant toujours des prises de position fermes sur 3 nouveaux critères de pénibilité qui permettraient à certains de partir plus tôt. Les syndicats, vous l'avez dit, ont bien compris que l'âge légal ne bougerait pas, mais qui tentent d'obtenir des avancées de la part du patronat.
Alors, le patronat, justement, vous nous en avez parlé. Ces patrons sont représentés par 2 fortes personnalités.
Oui, d'un côté, Amir Reza Tofighi, le nouveau et jeune patron des petites entreprises, qui ne cache pas son ambition finale, que les partenaires sociaux récupèrent la gestion du régime des retraites, à l'image du régime Agirc-Arrco, la retraite complémentaire des salariés du privé, qui affiche une insolente santé financière. De l'autre côté, Patrick Martin, du MEDEF, il affiche, lui, la discrétion des grands patrons qu'il représente, avec une obsession, mettre le moins possible les entreprises à contribution. Reprise des négociations, donc, dans 2 heures, pour tenter de signer un accord. Or, ce soir, personne ne semble vouloir jouer les prolongations, malgré la proposition faite hier soir par le Premier ministre, dont l'idée de prime senior n'a pas été évoquée de toute la matinée.
Agnès Soubiran, avec les moyens techniques d'Olivia Branger. Il y a évidemment un enjeu financier à cette discussion. La prévision de déficit est de 6,6 milliards d'euros pour le régime des retraites à l'horizon 2030. Mais il y a aussi un enjeu politique pour François Bayrou, le Premier ministre. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
On se souvient que grâce à ce conclave, il avait évité la censure des socialistes. Il avait réussi à passer le printemps et puis ensuite à faire voter son budget. Est-ce que François Bayrou a vraiment besoin d'un accord aujourd'hui ?
Oui, car ce conclave, c'était son idée, sa méthode vantée depuis janvier et sa trouvaille, en effet, pour amadouer le PS et s'épargner une censure. 5 mois plus tard, il a besoin d'un accord entre les partenaires sociaux pour prolonger son assurance vie et dissuader les oppositions de le renverser, même sans recul sur l'âge légal et les 64 ans. C'est tout le calcul. Comment le PS, parti de gouvernement, pourrait-il s'opposer à la CFDT et censurer le dialogue social ? Interroge un proche du Premier ministre. Comment le RN même pourrait s'opposer à des avancées sur la pénibilité ou la retraite des femmes ? Alors ces derniers jours, François Bayrou tente tout pour aider les partenaires sociaux à conclure, leur donner du temps, plus de jours pour négocier si nécessaire. Et puis il a dégainé en effet une nouvelle idée, cette prime pour inciter les seniors à se maintenir à l'emploi, même si chez les syndicats, personne n'a vraiment compris ni applaudi la mesure. En tout cas, le Premier ministre se démène, car il sait que pour durer, il doit passer cette première haie, les retraites, avant un obstacle bien plus important, le budget. Hier, Jordan Bardella a prévenu, la censure peut bien attendre l'automne et les discussions budgétaires.
Marie Mollet, c'est un groupe qui jusqu'ici avait été épargné par les révélations sur les dysfonctionnements dans les crèches. Le groupe La Maison Bleue, numéro 4 du secteur, 20 000 jeunes enfants accueillis dans 600 crèches. Eh bien, l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, dresse un rapport plutôt sévère de ces activités. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Il y a à la fois des anomalies financières, mais aussi des défaillances en matière d'accueil.
Oui, concrètement, cela signifie pas assez de personnel pour s'occuper des enfants. La loi prévoit des taux d'encadrement très stricts, mais visiblement, plusieurs crèches du groupe La Maison Bleue ne sont pas dans les clous. En cause, une logique d'optimisation de la masse salariale qui ne permet pas de compenser des absences de professionnels, par exemple quand ils sont en congé ou en maladie, analyse l'IGAS. L'inspection souligne également des anomalies financières, de fausses déclarations pour percevoir davantage d'argent public. Une pratique que déplore Cyril Godefroy, président du syndicat national des professionnels de la petite enfance.
Ce sont des fausses déclarations en termes de présence d'enfants dans les crèches qui permettent après de toucher des subventions et des financements de la CAF. Quel est l'intérêt d'avoir le secteur privé lucratif dans le secteur de la petite enfance ? Mettre des choses en place qui sont là seulement pour optimiser leurs bénéfices et leur développement au détriment complet de l'accueil des familles, des enfants et des conditions de travail des salariés.
Autant de non-conformités qui conduisent l'IGAS à saisir la justice. De son côté, le groupe La Maison Bleue concède des erreurs administratives, mais récuse toute intention de fraude. Tous les groupes privés feront l'objet d'un contrôle approfondi. C'est un engagement de la loi Plein Emploi de 2023.
Dans la lutte contre les violences faites aux enfants, mais aussi aux femmes, le tribunal de Libourne a décidé d'expérimenter un nouveau dispositif. Quand une personne sera condamnée à une interdiction de paraître, de pénétrer dans une commune, eh bien le tribunal en informera le maire. Delphine Evenou, on vous retrouve. Ça n'est pas le cas aujourd'hui?
Oui, les élus étaient parfois désemparés. Bernard Loret, le président de l'Association des maires de Gironde, signataire de cette convention.
C'est au cours d'une rencontre avec des élus qu'un maire a dit: monsieur le procureur, on a un petit problème dans ma commune. Je ne suis pas au courant des décisions de justice lorsqu'il y a des violences interfamiliales. On rencontre le mari qui n'a pas à être ou l'ex-mari qui n'a pas à être sur la commune. Et qu'est-ce qu'on doit faire?
Eh bien, dès vendredi, les maires du ressort judiciaire de Libourne vont donc être informés dans les 3 jours par une boîte mail confidentielle et pouvoir ainsi prévenir les gendarmes s'ils constatent qu'une interdiction de paraître n'est pas respectée, pour éviter les drames, pour permettre que la justice puisse adapter ses sanctions aussi, alors que le nombre de procédures pour violences intrafamiliales est passé de 700 à plus de 1100 en 2 ans au tribunal de Libourne. Cette expérience existe depuis près de 3 ans dans l'Yonne. Hugues de Filly est le procureur de la République d'Auxerre.
On est à environ 200 avis par an. Alors, au départ, on avait commencé avec les violences conjugales et puis on l'a également élargi à d'autres types de délinquances, du type de celles qui pourrit la vie des quartiers. Un cambrioleur sériel, un auteur de rodéo, voilà.
Ce type de convention permet de faire vivre ce qu'on appelle la justice de proximité.
Merci Delphine Evenou. 2 informations conso. D'abord, la consommation des vêtements neufs par les Français, elle a atteint un record l'an dernier. Chaque Français a consommé en moyenne en 2024, a acheté en moyenne 42 articles d'habillement neuf. C'est un article de plus qu'en 2023. Étude du cabinet ReFashion. Et puis le distributeur belge Colruyt va voir ses enseignes françaises. 81 de ces 104 magasins repris par le groupe de distribution Les Mousquetaires Intermarché.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Les députés vont-ils en finir avec les zones à faible émission qui excluent les véhicules les plus polluants des villes? Ils voteront cet après-midi sur le projet de loi simplification qui contient cette mesure. Et ce débat sur l'interdiction ou sur la taxation des voitures est très vif aussi en ce moment sur nos côtes. Illustration, dans les îles de l'océan Atlantique, l'île de Ré a mis en place un péage, c'était il y a 20 ans. L'île d'Oléron, comme l'île de Noirmoutier, voudrait limiter pour réduire le trafic de voitures, mais aussi pour financer des projets en faveur de l'environnement. En Vendée, le conseil départemental y est opposé. Alors hier, les élus de ces 3 îles, Ré, Oléron et Noirmoutier, s'étaient donné rendez-vous pour pousser le projet. Simon Cheneau.
Le président de l'agglomération de Noirmoutier n'en démord pas. Fabien Gabory veut installer des portiques à l'entrée de son île.
Ça vient flasher votre plaque d'immatriculation et vous recevez sur votre smartphone ou votre adresse internet une éco-participation à aller régler en ligne ou à aller régler chez les commerçants.
Une éco-taxe pour chaque véhicule comme chez les voisins de Charente-Maritime.
On paye 16 euros en pleine saison.
Lionel Quillet, président de la communauté de communes de l'île de Ré, est venu soutenir le projet à Noirmoutier.
Et puis 8 en demi-saison et 4 en très basse saison.
14 millions d'euros dégagés par an, cette taxe sauve notre île du surtourisme, dit-il, et permet d'entretenir les dunes, restaurer les marais.
L'environnement a un coût.
Et c'est bien normal de faire payer les conducteurs, réenchérit Michel Parent, président de l'agglo de l'île d'Oléron.
On a de grands espaces avec des plages, avec un espace dunaire, avec 2 forêts domaniales, donc les moyens de la communauté de communes ne sont pas suffisants pour entretenir ces espaces naturels.
Des péages à l'entrée de Noirmoutier, c'est toujours niette pour le département de Vendée. Les défenseurs de cette écotaxe ont depuis 2 semaines une nouvelle petite lueur d'espoir. La Commission nationale du débat public, c'est une autorité indépendante, a été saisie. Elle dira s'il faut ou pas consulter les citoyens sur cette question.
Reportage ici, Loire-Océan. Là, on est à une toute autre échelle. On parle de l'argent investi par les plus grandes banques du monde. Chaque année, sont des milliards de dollars de financement. Depuis 2 ans, ces banques s'étaient petit à petit détournées des investissements dans les énergies fossiles. Et beaucoup d'ailleurs ont mis en scène leur conversion conversion à des engagements plus verts. Ce temps-là est-il révolu ? Eh bien, si l'on en croit le rapport d'un groupe d'ONG, c'est le cas, puisque ces banques ont accordé plus de 850 milliards de dollars de financement au profit des énergies fossiles l'an dernier. C'est plus 23% par rapport à 2023. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour à tous.
C'est un retournement de tendance ?
Eh bien, ça en a tout l'air, même s'il faudra voir comment tout ça évolue l'an prochain. En tout cas, si l'on remonte un peu le temps, en 2021, de nombreuses banques s'engagent à aligner leur portefeuille de prêts bancaires et d'investissements avec l'objectif de neutralité carbone. C'est un moment important. Depuis, on a connu, vous l'avez dit, 2 années de recul des sommes consacrées à l'expansion des énergies fossiles, moins 20% et moins 24%. Et voilà donc cette année un rebond, la tendance est stoppée. Une hausse liée au contexte général de backlash écologique qui a commencé avant même l'arrivée de Donald Trump, explique l'ONG Reclaim Finance qui fait partie de ce consortium, mais aussi plus trivialement à la baisse des taux d'intérêt qui a pu inciter des entreprises du secteur énergétique à contracter de nouveaux prêts. Sur les 6 banques françaises observées, la hausse du financement des énergies fossiles est de 19%. BPCE est particulièrement pointé du doigt pour ses financements dans de nouveaux projets et infrastructures liées à l'extraction de gaz naturel liquéfié. BPCE qui se défend depuis quelques mois en indiquant ne pas financer les entreprises sans plan de transition et qui met régulièrement en avant son désengagement du secteur du charbon.
En Alsace, la collectivité européenne, c'est-à-dire les 2 départements alsaciens, demandait que les déchets toxiques du site de Stocamine soient extraits du sol pour éviter les pollutions. Le tribunal administratif de Strasbourg les a déboutés ce matin. Il autorise le confinement définitif de ces 42 000 tonnes de déchets entreposées dans cette ancienne mine, option la plus susceptible de préserver la ressource en eau, indique le tribunal dans son jugement. Nous vous avons déjà parlé ici même des récoltes de fruits en ce printemps 2025. Elles s'annoncent particulièrement abondantes. Et bien cela attire les convoitises. 4 personnes interpellées par les gendarmes de la Loire ce week-end, prises en flagrant délit de vol dans les vergers de la vallée du Gier. Cette année, face à la professionnalisation des voleurs, les producteurs font carrément appel aux gendarmes. Myriam Roquemassarin.
Des voisins qui viennent dérober une poignée de cerises sur son verger, Jean-Charles Couson, arboriculteur à ces lieux, a l'habitude d'en voir. Mais cette année, il doit faire face à des voleurs professionnels.
Alors les bandes organisées, c'est des gens qui viennent avec plusieurs véhicules, qui prennent des grosses quantités, c'est-à-dire qui sont déposés à 8-10 personnes, et ils ramassent et les véhicules repassent, ils chargent tout dans le coffre et ils s'en vont comme ça.
Pour protéger ses parcelles, Jean-Charles a installé 2 caméras pour être prévenu en cas d'intrusion. Il s'est aussi organisé avec ses collègues.
Le premier réseau de surveillance, c'est nous, producteurs, qui tournons dans nos vergers, bien sûr toute la journée puisque nous y travaillons, mais surtout le soir, on fait des petites rondes, chacun dans notre coin avec nos véhicules.
Mais ce n'est pas suffisant, alors dans la vallée du Gier, 20 gendarmes circulent tous les jours, certains dans des voitures banalisées, parce qu'on est bien face à des bandes organisées, comme le précise le colonel Sébastien Jouglard à la tête de la gendarmerie de la Loire.
Ce qui est certain, c'est qu'au regard du volume et du poids total des cerises qui sont dérobées, plusieurs dizaines voire centaines de kilos, c'est certainement pas pour la consommation personnelle, c'est clairement pour la revente.
Plusieurs interpellations ont déjà eu lieu, avec à la clé des amendes forfaitaires de 300 euros.
Ici Saint-Étienne-Loire, sur les routes du Cher, un 3e cycliste suisse est mort après avoir été percuté par un camping-car avant-hier, commune de Belleville-sur-Loire. L'accident avait déjà fait 2 morts. L'homme qui vient de succomber était âgé de 71 ans. Il avait été pris en charge au centre hospitalier de Tours. La garde à vue du conducteur du camping-car, 87 ans, cette garde à vue a été levée en raison de son état de santé. Et cet homme a été pris en charge dans un hôpital psychiatrique. Les applications de rencontres seraient-elles passées de mode ? Elles sont de moins en moins plébiscitées. On les accuse d'être addictives, de nous prendre beaucoup de temps et surtout de susciter beaucoup de déceptions. À l'image du mastodonte du secteur Tinder, qui pour se relancer va lancer une nouvelle fonctionnalité cet été. Elle est en train d'être testée pour organiser des dates, des rendez-vous à 4. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Comment ça va fonctionner et pourquoi cette nouveauté ?
Il sera surtout possible de créer un profil commun avec un ou une amie. Et à ce moment-là, vous verrez apparaître dans vos recherches non pas une, mais 2 photos avec leur description. Ici, l'un des membres du duo match avec un autre, une discussion démarre. L'idée, c'est bien de briser la glace plus facilement, être plus à l'aise lors du premier rendez-vous, c'est aussi plus rassurant avant, pourquoi pas, de renouveler ce rendez-vous en tête-à-tête.
Ça marche pas, Tinder, les applis de rencontre, il faut séduire de nouveaux utilisateurs.
Oui, ces applis rivalisent d'idées, car les téléchargements de Tinder, Bumble, Meetic, Grindr ont chuté de près de 20% depuis 2020. Les valorisations boursières sont en chute libre. Il y a de la lassitude, un sentiment de ras-le-bol pour de nombreux utilisateurs, notamment chez les moins de 30 ans. Certains témoignent face caméra sur les réseaux sociaux.
Les applications de rencontre vous gâchent la vie. Et là, ça fait genre 3 semaines, 1 mois que j'ai supprimé et je me sens trop bien. C'est la première fois que j'ai aucune envie de réinstaller.
J'ai vraiment eu ma dose parce que ça ne marchait jamais avec les mecs sur Tinder.
Le problème des apps, c'est que tout est basé sur l'illusion de l'abondance. En fait, tu crois que tu peux rencontrer 10 personnes supplémentaires dans l'heure.
Alors ces derniers mois, Tinder comme Bumble misent aussi sur les rencontres amicales pour tenter de redresser la barre, mais la viabilité économique reste incertaine par rapport au business des rencontres amoureuses.
Victor Vasseur, un lieu pour faire des rencontres, un musée, un lieu d'art contemporain qui a ouvert ses portes il y a quelques mois dans un département qui n'en comptait aucun. C'est le département de l'Ardèche. Nous sommes à Aubenas. Le nom de ce centre d'art contemporain, le Château. Il va dans quelques jours souffler sa première bougie, donc ça marche, et Julien Baldacchino a pu le constater.
Sur la place centrale de la ville, le château d'Aubenas a été un palais de justice et une salle des mariages avant de se reconvertir en lieu d'art contemporain. Victor Secrétan en est le directeur.
Il y a eu ce projet de réhabiliter le château dès les années 2010. Il fallait aussi avoir l'idée d'un usage, un nouvel usage. Et pour le faire vivre, il y a eu cette idée de faire dialoguer la création contemporaine, l'actualité avec la vieille pierre, avec l'histoire.
Au cœur du lieu sont présentées 4 expositions qui explorent des supports différents, de la peinture grand format à la photo noir et blanc. Et l'idée est de ne pas isoler le centre d'art de la ville et de ses habitants, et donc de le rendre accessible à tous et à toutes.
Et c'est le premier centre d'art contemporain à l'échelle du département. On démarre quelque part en douceur, et l'idée c'est aussi d'avoir en fait un discours qui soit le plus généreux, une adresse la plus généreuse possible au public. Il s'agit pas de renier sur l'exigence de nos propositions artistiques, mais il s'agit de pas en fait dégoûter pour un certain nombre de personnes qui n'ont peut-être jamais été confrontées à l'art contemporain. C'est, il me semble important voilà, de les prendre par la main.
Avec en coup de cœur pour cet été, une expo consacrée au photographe Gilbert Garcin qui a commencé sa carrière à 60 ans et qui jouait de sa propre image dans des mises en scène parfois loufoques et souvent mélancoliques. Un bel exemple de l'ouverture au plus grand nombre souhaité par ce lieu.
Reportage Julien Baldacchino, 13h26 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure. Un musée, c'est un lieu où on va trouver de la fraîcheur. Aujourd'hui, fait de plus en plus chaud, va nous dire Elodie Kalak dans quelques minutes. Et ça n'est que le début. À partir de 13h30, nous revenons au conflit Israël-Iran. On parle des armes nucléaires. Elles sont au cœur de cette guerre. Est-ce que ces armes sont source de nouveaux conflits? Ou au contraire, sont-elles la garantie pour ceux qui en disposent d'être protégés? 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton, nous découvrons le tatouage thérapeutique pour les femmes, notamment. Nous serons à Montpellier. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Eh bien Jérôme, de Lannilis dans le Finistère à Strasbourg dans le Bas-Rhin, en passant par Huisseau-sur-Mauves dans le Loiret, je vous parlerai des fêtes d'école qui veulent devenir plus écolos cette saison.
Ce qu'on appelle les kermesses.
Exactement.
Et avec vous Frédéric, un humoriste.
Il est également comédien, il s'agit de Redouane Bougueraba qu'on pourra voir au cinéma demain dans le film Sur la route de papa. Et avec lui, nous écouterons une chanson tirée de la comédie musicale Roméo et Juliette, la chanson « Avoir une fille ». L'occasion pour Edouane Bougueraba de nous parler de ses filles qu'il adore.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises?
Développer mon entreprise et maîtriser son impact sur la société et l'environnement, c'est un vrai défi. Alors Paul, mon conseiller Banque Populaire, m'a parlé du prêt à impact. Si mon entreprise atteint ses objectifs de RSE, elle peut bénéficier d'un remboursement d'intérêt.
Soutenir nos entreprises clientes dans leur transition durable, c'est ça être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Sous réserve d'acceptation par votre Banque Populaire. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 banques populaires, première banque des PME.
Il est... comment dire...
Bon ?
C'est ça, il est bon ton jambon.
Jambon de Bayonne.
Ah oh bah oui.
Le jambon de Bayonne, bon pour le goût, bon par engagement, bon tout simplement.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
France Inter, partenaire de Enzo, un film de Laurent Cantet, réalisé par Robin Campillo.
Enzo,
Enzo, 16 ans, apprenti maçon à La Ciotat, cherche à échapper au cadre confortable mais étouffant de la villa familiale.
C'est un petit bourge que je raconte des histoires, c'est tout.
Sur les chantiers, avec Vlad, un collègue ukrainien, Enzo va entrevoir un nouvel horizon.
J'ai pas envie de cette villa. Ce truc, tout le monde fait la fête comme si tout allait bien.
Enzo, avec Éloi Pohu, Pierre-Francesco Favino et Élodie Bouchèze, au cinéma le 18 juin, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est un temps estival.
Oui, avec beaucoup de soleil. Alors on pinaille un petit peu. Quelques nuages bas peuvent résister sur les côtes du Finistère ou sur le Cotentin.
Ils sont pas nombreux.
Non, pas nombreux. Quelques nuages décorent le ciel de l'intérieur de la Bretagne vers la région parisienne, la frontière belge, le nord de l'Alsace. Des nuages peuvent bourgeonner aussi sur le sud des Alpes et l'intérieur de la Provence et la Corse avec une averse possible. On a un vent de nord sur l'est de la Corse jusqu'à 60 km à l'heure et puis des températures qui progressent doucement. 21 à 26 degrés près de la Manche cet après-midi. 27 à 31 ailleurs, jusqu'à 33 à 35 vers le Languedoc-Roussillon. Demain, à nouveau, beaucoup de soleil, il fera plus chaud. 28 à 32 degrés souvent sur la moitié nord, 30 à 34 au sud, jusqu'à 35-36 vers le Languedoc-Roussillon. Pour la suite, ce sera très ensoleillé et de plus en plus chaud. Une vague de chaleur va se mettre en place. De très fortes chaleurs sont attendues d'abord sur l'ouest et le sud, puis sur l'ensemble du pays pour le week-end, avec un pic qui pourrait être atteint lundi. Je prends des pincettes. Hein,
lundi prochain, ça serait le maximum de cet épisode.
Oui, je prends des pincettes parce que c'est vraiment loin. On va en reparler au fil des jours, on affinera tout ça, et des températures qui pourraient donc entamer une baisse mardi par l'ouest avec une dégradation orageuse.
On montera jusqu'à combien on peut 40 degrés par exemple, ça paraît probable ou c'est un peu tôt pour le dire?
En tout cas des températures fréquemment qui dépasseront fréquemment les 35 degrés.
Fréquemment les 35 degrés. Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Étienne Marcuse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de l'armement stratégique. Je voudrais que l'on parle ensemble dans les prochaines minutes des armes nucléaires qui sont au cœur du conflit en ce moment entre l'Iran et Israël, puisque les Israéliens justifient leur frappe par la volonté d'empêcher les Iraniens d'obtenir l'arme atomique. Ça pose au moins deux questions. Pourquoi un pays peut-il avoir l'arme atomique et pas un autre? Et puis, cette arme garantit-elle réellement une protection, puisqu'on voit qu'elle n'empêche pas Israël de subir des bombardements sur son sol et de subir donc des dégâts? Il y a eu une vingtaine de morts en Israël depuis le début du conflit entre ces deux pays. 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous passez également via l'application Radio France. Est-ce qu'on a Philippe de Nantes en ligne? Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà. Le Pakistan, l'Israël ont l'arme atomique. Pourquoi est-ce que l'Iran ne l'aurait pas? Parce que ça ne sert en fait à rien.
Merci Philippe pour cette question concise mais précise. Étienne Marcuse, pourquoi les Iraniens ne pourraient pas prétendre à la bombe atomique?
Alors, aussi bien Israël que le Pakistan ne font pas partie donc, des cinq pays dotés du membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont les puissances qui ont théoriquement le droit de posséder l'arme nucléaire, puisque ils l'ont disposé avant la signature du traité de non-prolifération en 1967. Depuis, un certain nombre d'États, donc parmi lesquels Israël, le Pakistan, l'Inde et la Corée du Nord, se sont dotés de l'arme nucléaire. Alors, sachant qu'Israël, c'est encore un cas à part, puisque ça n'a jamais été officialisé. Mais bon, c'est de notoriété qu'il possède l'arme nucléaire.
Et les Israéliens ne disent pas qu'ils ont l'arme nucléaire?
Tout à fait. Il y a une ambiguïté. Ils maintiennent ce qu'ils appellent une ambiguïté. Donc, ils ne revendiquent pas parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas être les premiers à introduire l'arme nucléaire au Moyen-Orient, mais ils la possèdent. C'est juste qu'ils n'ont pas déclaré officiellement la posséder. Donc, l'Iran, ces quatre pays donc, que je viens de citer, oui, ont développé un programme nucléaire clandestin qui leur a permis de se doter de l'arme nucléaire. L'Iran suit la même logique, pourrait décider d'avoir l'arme nucléaire. En fait, l'Iran est ce qu'on appelle un état de seuil, c'est-à-dire qu'ils ont développé toutes les technologies nécessaires ces dernières décennies pour pouvoir, si la décision politique était prise, pour pouvoir se doter de l'arme nucléaire. Pour l'instant, là encore, on en est à un état de seuil, c'est-à-dire qu'ils ont le stock d'uranium enrichi, ils ont la base théorique pour développer l'arme, mais la décision politique n'a pas encore été prise.
Ça veut dire qu'Israël aujourd'hui est en dehors du droit international avec son arme atomique, et les Iraniens le seraient aussi demain s'ils parvenaient à l'obtenir.
Alors, il me semble que Israël n'est pas signataire du TNP, du traité de non-prolifération, mais effectivement, c'est pas un des pays qui sont officiellement, légalement autorisés à disposer de l'arme nucléaire. Mais après, effectivement, la légitimité ou non de posséder l'arme nucléaire est assez un sujet assez complexe, puisque c'était en fait juste les pays qui étaient dotés de l'arme avant la signature du TNP.
Est-ce que ça peut avoir un rapport avec le fait que l'Iran est une dictature religieuse, que c'est un pouvoir qui réprime son peuple? On l'a vu ces dernières années. Autrement dit, si l'Iran était une démocratie, est-ce que ça changerait les choses?
Non, ça changerait absolument rien, puisque déjà, le régime politique n'est pas très important. Par exemple, on le voit avec la Corée du Nord, uh-huh, ou même la Chine. Par exemple, la Suède a cherché, durant la guerre froide, à développer une arme nucléaire. Il y a eu plusieurs États, il y a eu l'Algérie, l'Afrique du Sud. Donc non, c'est vraiment en fait des pays qui se sentent particulièrement menacés. Et en fait, il faut bien comprendre que ce soit par exemple l'Iran, Israël ou la France, en fait, c'est la même logique de vouloir à tout prix assurer l'intégrité, la souveraineté sur leur territoire, puisque en fait chaque pays a connu un traumatisme énorme. Alors Israël, bien sûr, c'est l'Holocauste, mais également le fait d'être entouré par des pays arabes durant les années 50 et 60 qui lui étaient particulièrement hostiles. La France, bien sûr, c'est le traumatisme de 40, et l'Iran, c'est le traumatisme de la guerre Iran-Irak, donc dans les années 80, durant laquelle en fait l'Iran s'est retrouvé absolument seul ou quasiment face à quasiment toute la communauté internationale qui soutenait l'Irak. Donc en fait, le programme nucléaire iranien a démarré suite à la guerre Iran-Irak pour, c'est le plus jamais ça, pour s'assurer qu'il ne serait plus menacé.
Et pourtant, le discours officiel iranien n'est pas du tout celui-là. Je vous propose, Étienne Marcus, d'écouter ce que disait hier matin sur l'antenne de France Inter l'ambassadeur d'Iran en France.
Pour nous, accès à la bombe atomique était hors de notre agenda, pour toujours, idéologiquement, religieusement. Même la culture iranienne n'accepte pas.
La culture iranienne n'accepte pas l'arme atomique. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours?
Alors, il y aurait en fait deux grands courants. Là encore, c'est très dur, hein, parce que c'est un système qui est opaque, c'est un programme en plus qui est clandestin, donc bien sûr, on ne peut pas prétendre, en tout cas dans l'ouvert, hein, les services de renseignement ont probablement plus d'informations, mais en tout cas, dans l'ouvert, on ne peut pas prétendre savoir ce qui se passe exactement, mais il y aurait deux courants, les religieux qui seraient plutôt contre, effectivement, le fait de se doter de l'arme nucléaire, parce que ça serait à l'encontre de leurs principes religieux, mais il y aurait aussi un courant beaucoup plus pragmatique chez les gardiens de la Révolution, qui, eux, estiment que c'est nécessaire pour assurer l'intégrité du territoire.
Et tout le monde ne serait pas d'accord.
C'est ça. Et c'est pour ça que la volonté d'un changement de régime, qui a été annoncé à plusieurs reprises ces derniers jours côté israélien, ne serait pas nécessairement bénéfique, parce que on ne sait pas qui prendrait la suite du régime, notamment de l'ayatollah Khamenei, et ça pourrait être les gardiens de la révolution qui, eux, pourraient vouloir justement se doter le plus rapidement possible de la bombe.
Donc
c'est très compliqué.
Sauf à vérifier que les Israéliens n'éliminent que les leaders iraniens favorables à l'obtention de l'arme atomique et laissent les autres de côté et les laissent en vie.
Tout à fait.
C'est une option, je ne sais pas ce qu'il en est.
Mais... Effectivement, pour l'instant, d'ailleurs, le leadership politique, notamment religieux, n'a pas été ciblé. Est-ce parce qu'il y aurait eu, soi-disant, Donald Trump qui aurait interdit à Israël de cibler le leadership politique, malgré le fait qu'apparemment, ils en auraient eu la possibilité? Ou alors, justement, est-ce qu'ils ciblent en priorité les gardiens de la révolution, comme vous le dites, pour neutraliser ceux qui sont les plus favorables à l'arme nucléaire?
Beaucoup de questions, 0145 24 7000. Laurent est avec nous en direct des Côtes d'Armor. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour. Moi, c'est d'une façon un peu plus générale, donc sur la problématique du nucléaire militaire. Et j'aurais voulu simplement savoir comment certaines personnes peuvent laisser entendre que la dissuasion nucléaire garantit la paix, alors même qu'on sait tous qu'elle constitue la pire menace pour l'humanité entière. Et la solution, finalement, ne réside-t-elle pas dans la signature du traité sur l'interdiction des armes nucléaires de l'ONU?
Merci Laurent pour cette question. Étienne Marcuse, est-ce que c'est la garantie pour un pays de vivre à l'abri, si je puis dire? On voit que bon, bah, les Israéliens subissent quand même des bombardements, même s'ils ont l'arme nucléaire.
Alors, l'arme nucléaire, contrairement à ce que beaucoup imaginent, c'est pas la baguette magique. Ça protège contre des attaques majeures qui menacent l'intégrité, la souveraineté d'un État, ses intérêts vitaux. Donc, par exemple, une attaque limitée, comme ce qui s'était passé en Israël en avril et en octobre 2024, ou même ce qu'on voit, par exemple, les attaques ukrainiennes contre la Russie, ne remettent pas en cause l'existence de l'État russe ou l'existence de l'État israélien. Donc, l'arme nucléaire ne peut protéger, enfin, n'est capable de protéger, en théorie, que ce qui menace, par exemple, le gouvernement français, la République française ou la République islamique d'Iran, etc.
Mais concrètement, là, entre Israël et l'Iran, ça veut dire que, vu que les Israéliens ont la bombe, les Iraniens, par exemple, ne vont pas chercher à éliminer leur Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Alors qu'à l'inverse, les Israéliens, eux, pourraient viser, par exemple, le leader Khamenei.
Tout à fait, ça pourrait être ça. Alors après, il faudrait aussi que les Israéliens aient des moyens de cibler le leadership politique israélien, ce qui est pas loin d'être certain d'être le cas. Mais on le voit par exemple, la Corée du Nord, depuis que la Corée du Nord possède l'arme nucléaire, la pression qui est exercée sur elle est quand même beaucoup plus limitée, parce qu'on sait qu'ils auront la capacité, en tout cas on le suspecte, qu'ils auraient la capacité de menacer par exemple le Japon ou la Corée du Sud, donc voilà, ou même les États-Unis, puisqu'ils ont des missiles intercontinentaux. Donc en fait, une fois que un État est doté de l'arme nucléaire, même si c'est une capacité qui est relativement rudimentaire, il y a toujours un doute de « et si jamais ça passe ?» Parce qu'on l'a vu, Israël est doté d'un bouclier antimissile qui est très efficace. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet justement aussi à Israël de ne pas partir tout de suite sur la dissuasion nucléaire, puisqu'ils peuvent limiter grandement les dommages causés par l'Iran. Mais on l'a vu aussi, par exemple, le 4 mai, quand les Houthis ont attaqué l'aéroport de Tel Aviv, Ben Gurion, c'était un seul missile.
Donc les Houthis, cette milice installée au Yémen, qui est soutenue par les Iraniens et qui a visé Israël ces derniers mois.
Tout à fait. Et donc, un seul missile, qui était en plus relativement rudimentaire, hein, c'est tiré par les Houthis, est passé au travers du bouclier israélien qui est le plus performant au monde, qui dispose de ce qu'on appelle un bouclier multicouche, plusieurs types d'intercepteurs, etc. Donc, un seul missile, en fait, pourrait passer. Alors, imaginons qu'il possède et que les Houthis aient possédé l'arme nucléaire, en fait, bah, ça aurait suffi à détonner au-dessus de Tel Aviv. Donc en fait, un pays qui de facto est doté de l'arme nucléaire, on va partir du principe que on ne sait jamais, bah, il pourrait être à même de mettre en œuvre sa dissuasion. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'attaquer un État qui est doté de l'arme, parce qu'on va être beaucoup plus prudent en raison des dégâts considérables que peuvent causer une seule arme sur une capitale, par exemple.
Vous parliez de la Corée du Nord, Étienne Marcuse. Comment est-ce qu'on explique que l'Iran soit soumis à de grosses pressions internationales et donc même à des bombardements israéliens concernant son supposé programme nucléaire, sa volonté peut-être d'obtenir la bombe, mais que par exemple la Corée du Nord ait réussi à l'obtenir et qu'elle n'ait pas été bombardée, qu'aucun pays ne soit allé jusque-là?
Le contexte est déjà très différent, bien évidemment, puisque là, la Corée du Nord, même si effectivement elle a un ennemi entre guillemets qui est la Corée du Sud, elle possède un arsenal conventionnel qui pouvait vraiment menacer la Corée du Sud de manière purement conventionnelle. Donc, ce qui dissuadait les Coréens du Sud d'attaquer préemptivement la Corée du Nord. Là, pour l'Iran, en fait, ce qui a causé toute cette escalade, c'est le fait qu'en fait, ils se basaient notamment beaucoup sur les proxys, donc les milices du Hamas et du Hezbollah, pour pouvoir donc dissuader Israël de les attaquer. Et là, en fait, depuis que Israël a neutralisé en très grande partie le Hamas et le Hezbollah, en fait, l'Iran ne dispose plus de ce glacis qui le protégeait des attaques israéliennes. Et donc là, bah, c'était un peu dans la suite logique pour Israël de chercher à neutraliser donc, la tête pensante de ce réseau qui est l'Iran.
On voit depuis quelques mois, Étienne Marcus, que des puissances nucléaires, je pense à la Russie, je pense à Israël, attaquent des pays qui n'en sont pas, comme l'Iran, comme l'Ukraine. Est-ce que ça change la donne pour la sécurité mondiale? Est-ce qu'il n'y a pas des pays comme la Pologne, comme la Norvège, comme la Turquie par exemple, qui vont dire bah, « nous aussi on veut l'arme nucléaire ».
Tout à fait, c'est le principe de la sanctuarisation agressive, donc un pays doté de l'arme qui va s'en prendre à un pays non doté en se protégeant lui-même grâce à son arme nucléaire. Et c'est là où justement il faut rapporter un équilibre, donc pouvoir menacer le pays attaquant de dommages équivalents. Et c'est pour ça qu'en fait il faut qu'il y ait un garant nucléaire en Europe, que ce soit les États-Unis ou une autre puissance, par exemple la France.
Et s'il n'y a pas de garant, tout le monde va vouloir l'arme.
C'est le gros risque et c'est pour ça que ceux qui estiment que la France ne doit pas étendre sa dissuasion, donc je dis bien étendre, pas partager, donc elle garderait le contrôle, mais ceux qui estiment que la France ne devrait pas le faire, en fait, souvent ont tendance à oublier que si on ne le fait pas, bah, ça va pousser les pays comme effectivement la Pologne, la Suède, l'Allemagne, qui ont les connaissances théoriques, même s'ils n'ont pas encore tout, mais ils pourraient éventuellement travailler sur ces questions et l'acquérir au bout d'un certain temps. Et ça, est-ce que c'est dans l'intérêt de la France? Je ne pense pas. Donc voilà, il y a... C'est pour ça qu'il y a toutes ces discussions à l'heure actuelle sur la volonté, la capacité de la France à étendre sa dissuasion à ses partenaires européens.
Merci Étienne Marcus d'avoir accepté l'invitation de ce 13-14 chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie, notre feuilleton qui nous permet de découvrir un métier cette semaine. Tatoueuse thérapeutique, c'est-à-dire habiller un corps qui a pu être mutilé par un accident ou par des opérations. Et dans son cabinet de Montpellier, notre tatoueuse Caroline Escafitte accueille surtout des femmes.
Les femmes se battent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parfois, on voit arriver des femmes où c'est compliqué de se reconstruire avec un corps qui est mutilé.
Est-ce qu'on cache une cicatrice? Est-ce qu'on fait un tatouage autour d'une cicatrice? Est-ce qu'on habille une cicatrice?
Il y a plusieurs cas de figure, effectivement. Il y en a qui, suite à un trauma, qui décident vraiment de l'oublier, la cacher complètement. Donc à ce moment-là, on propose un dessin qui englobe donc la cicatrice, qui passe dessus, mais qui va aussi un peu ailleurs pour vraiment noyer le poisson. Donc en l'occurrence, la cicatrice. Après, il y a des personnes qui veulent pas forcément la cacher, mais qui veulent la calmer, l'apaiser, parce que elles en ont marre des remarques, elles en ont marre des « mais qu'est-ce que t'as là ?». Donc elles veulent l'agrémenter et la rendre plus jolie, mais qui vivent très bien avec. Et ensuite, il y a des personnes qui, les cicatrices leur provoquent une espèce d'asymétrie du corps qui les chagrine un petit peu. Donc à ce moment-là, les cicatrices, on y touche pas. Un petit peu, mais on fait surtout comme une sorte de trompe-l'œil pour rééquilibrer visuellement l'aspect du corps et voilà. Et après, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de cicatrices visibles, mais qui sont plutôt psychologiques ou je pense à le cas d'une jeune maman qui a perdu son bébé suite à un accident domestique. Et elle voulait quelque chose de très visible. Parce qu'elle voulait continuer à parler de son enfant. Elle voulait continuer à le faire exister. Elle voulait qu'il soit là, sur elle. Et elle voulait quelque chose d'imposant, de beau, qui l'englobe et sur le cœur. C'était vraiment un très, très beau moment. Et un an après, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit « Tu sais, je viens d'accoucher de mon enfant. » Donc en fait, juste après qu'elle ait fait son tatouage, elle est retombée enceinte et elle a eu son bébé merveille, quoi. Donc c'était, je vous raconte pas l'état dans lequel j'étais.
Je le devine.
Plutôt très touchée, très touchant. Enfin, il y a plein de... Le tatouage, ça sert à plein de choses. Ça sert à aller mieux, ça sert à voilà, se sortir d'impasse, ça sert à arrêter de douter, ça sert à... Voilà, on s'occupe aussi des accidents de la route, des grosses cicatrices, des brûlures, enfin, il y a tout un panel qui fait que le tatouage peut aider.
Les scarifications aussi.
Ah, tout à fait. Les scarifications, j'ai eu il n'y a pas longtemps une personne qui est venue me voir qui avait des scarifications sur le bras, comme malheureusement bien trop de jeunes et de jeunes femmes notamment, de plus en plus. En fait, elle a eu un déclic, cette personne, suite à la naissance de son fils. Elle a vu, elle s'est fait prendre en photo du coup avec son bébé dans les bras. Et en fait, elle a vu son bébé et juste en dessous son bras scarifié. Et là, il y a quelque chose dans sa tête qui, ça collait plus du tout parce qu'elle les assumait. Mais là, elle voulait plus ça. Elle était passée à autre chose. Elle avait fait tout son travail pour aller mieux. Mais les stigmates étaient encore là. Et là, on s'est rencontrés pour justement les cacher et mettre plutôt des fleurs, les fleurs de naissance de son enfant, pour couvrir tout ça et clore le chapitre.
Feuilleton signé Vanessa Descoureaux, la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mardi 13h49, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de fêtes d'école qui se veulent de plus en plus écolos.
Et je vous emmène, Jérôme, à Lannilis, 5700 habitants dans le Finistère. Ce dimanche, c'était la fête de l'école Kergroas. Mona Ozouf et l'association des parents d'élèves a voulu verdir cette kermesse en préparant depuis février des lots plus durables. Lors d'ateliers couture, une quinzaine de personnes ont fabriqué porte-cartes, chouchous ou charlotte à bol, le tout raconte Ouest France, à partir de tissus de récupération ou en coton bio. Corinne Roper, membre des parents d'élèves, m'a dit hier que ça a bien marché, que les gens étaient contents et que les recettes financeront le voyage des CM1, CM2, je la cite. On avait un stand 100% fait main, un entre 100% recyclage avec peluches, livres et jouets grâce aux dons des familles notamment. On a aussi reçu des dizaines de boutures de fleurs. Certes, on a encore des jouets en plastique, mais on veut progresser vers une fête plus verte.
D'ailleurs, certaines écoles ont banni les lots en plastique.
Depuis plusieurs années même, à l'école de l'Adoration à Rennes, fini pistolets à eau et babioles en plastique qui se cassent en quelques minutes et dont la production comme le transport sont tout sauf bons pour la planète, place à rien. Car ce qu'on gagne à la pêche à la ligne, Jérôme, c'est le plaisir de jouer. On a aussi voulu recréer des liens intergénérationnels avec des jeux plus classiques comme la course en sac ou le tir à la corde, m'a confié la directrice Sandrine Oiselet. Côté buvette, les circuits courts sont privilégiés avec un jus de pomme local et les bonbons sont emballés dans du papier plutôt que dans du plastique. Les fanions de décoration, eux, sont en tissu et lavés d'une année sur l'autre. Alors avant la kermesse, la présidente des parents d'élèves avait fait le tour des classes pour expliquer la démarche et après, la directrice a débriefé avec les enfants. Retour positif et joie de s'amuser aussi avec leurs parents, plutôt qu'avec des jouets gagnés aux différents stands.
Et plus à l'est, vous avez aussi repéré des kermesses sans gaspillage.
Depuis 2023, l'association Zéro Déchet Strasbourg lance le défi des kermesses zéro déchet. Une dizaine d'écoles de la métropole participent cette année, m'indique la coordinatrice Carole Brideau. Les établissements sont accompagnés et partagent leurs expériences. Quelques bonnes pratiques. Jérôme, demandez aux parents d'apporter leur propre vaisselle, remplacer les boissons individuelles par des cruches d'eau parfumées au sirop, faire des demi-sandwichs pour éviter le gaspillage, quitte à se resservir.
Ouais, si on a encore faim.
Évidemment, okay. On peut y revenir. Ouais. Et pour les tombolas, on offre un bon pour un croissant chez le boulanger du coin ou des jouets de seconde main.
Tout ça, c'est très bien, mais ça veut quand même dire qu'il faut se préparer assez en amont, assez
oui,
en avance.
Une kermesse responsable, ça se prévoit pour confectionner les lots, sensibiliser les parents ou pour planter des pommes de terre. C'est ce qu'on fait dès mars, les enfants de l'école Saint-Joseph à Vezin. Ainsi, ce samedi, ils ont dégusté les frites made in
Maine-et-Loire.
Exactement, les frites made in Maine-et-Loire, raconte le Courrier de l'Ouest. C'est bon pour la planète, c'est bon pour les papilles.
C'est bien, je m'interroge quand même, Cyril, sur l'ampleur de ce phénomène en France. Est-ce que toutes les écoles font ça ?
On n'y est pas, Jérôme. Si plusieurs associations aident les établissements dans ces démarches de fêtes plus vertes et que le phénomène progresse, soyons honnêtes, je n'ai pas trouvé des centaines d'exemples parmi les 48 000 écoles de France, mais on se consolera en observant que l'environnement est souvent le thème principal du spectacle des enfants, c'est de la sensibilisation. Ce fut le cas fin mai à l'école de Huisseau-sur-Mauve dans le Loiret. Les maternelles ont donné un spectacle intitulé « Planète verte », nous rappelant, comme l'écrit la République du Centre, de faire attention à notre planète pour qu'elle conserve ses couleurs naturel.
Merci Cyril Petit du journal Ouest-France. De C'est la France à C'est une chanson, c'est l'humoriste et comédien Redouane Bougueraba que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Aux côtés notamment de Caroline Anglade, il est à l'affiche du film Sur la route de papa qui sort demain en salle. Et il est justement question de paternité dans la chanson qu'il a souhaité que l'on écoute. Son titre, c'est Avoir une fille.
C'est une musique qui me touche énormément. Et sur la paternité, et le fait d'avoir une fille, de la voir grandir, de la voir partir. Et elle a vraiment résonné lorsque j'ai eu mes filles. Je me suis dit, waouh, c'est émouvant, ça transmet des émotions. On n'a pas besoin d'avoir une fille pour se projeter et se dire que si on avait une fille, comment ça allait se passer? Et toutes les craintes et toutes les peurs qu'on peut avoir. Et c'est un cadeau qui n'est pas empoisonné, mais c'est un très beau cadeau qui peut faire mal.
Ça peut faire mal pour quelle raison?
Ça peut faire mal parce que c'est un amour inconditionnel qu'on a avec ses filles. Et de savoir qu'elles vont partir avec un autre mec, c'est la déchirure. On veut leur bonheur, mais il y a ce côté égoïste qui veut que... On ne veut pas partager ce bonheur, c'est notre trésor, c'est une partie de nous, c'est le fruit de mes 20 ans.
Avoir une fille, une petite opale, deux yeux qui brillent, une peau si pâle. Avoir une fille, c'est faire une femme, une petite virtuose avant ses gammes. Avoir une fille, un cœur de sable, cadeau de Dieu, cadeau du diable. Avoir une fille, c'est faire un crime où le coupable est la victime. Avoir une fille, elle est ma vie, elle est mon sang, elle est le fruit de mes 20 ans. Et je maudis tous ces amants. Elle est ma vie, elle est mon sang. Et je maudis tous ces amants.
Cette chanson, Frédéric, est tirée de la comédie musicale Roméo et Juliette.
Chanson interprétée par Sébastien Elchâteau, qui jouait dans le spectacle Le Comte Capulet, le père de Juliette, un père plein d'amour pour sa fille. Ce même amour que Redouane Bougueraba ressent pour les siennes.
Pour mes filles, je suis prêt à tout. Donner un rein, un poumon, donner le cœur. Bon, la grande, elle ne nous calcule plus trop parce qu'elle est grande. Et la petite, elle nous calcule trop parce qu'elle est petite. Mais ça se passe très très bien. Elles sont studieuses, elles sont pétillantes.
Elle s'appelle comment?
Alors la petite s'appelle Donia, surnommée Poupouna, et la grande, elle s'appelle Romane.
Vous, quand vous étiez plus jeune, vous vous imaginiez père?
Non, je ne m'imaginais pas père. Quand j'étais jeune, je pensais qu'à jouer, à m'amuser, cueillir le jour, carpe diem. J'étais innocent et je pensais qu'à la rigolade et à la joie de vivre, l'allégria.
Et c'est arrivé de façon joyeuse aussi, cette paternité?
Ben oui, c'est arrivé, c'est le plus bel amour qu'on puisse avoir, c'est indescriptible.
Elles ont quel âge aujourd'hui, vos filles?
Ben, la grande, elle a 18 et la petite, elle a 6 ans.
Et ce sont vos trésors?
Ah, c'est plus que le trésor, hein.
Elles sont fières de leur père, vos filles?
Ouais, je pense qu'elles sont fières. Elles sont contentes lorsqu'elles me voient dans des films ou dans des spectacles. Il y a une fierté, hein. Il y a ce truc de papa, il est connu. Papa, quand il est là, c'est plus facile. Quand papa, il est là, on sait que ça va être un bel hôtel, ça va être de belles vacances. Quand c'est papa, c'est gage de qualité.
Mais vous êtes toujours avec leur maman?
Maman, elle est là aussi, mais elle n'a pas le même pouvoir que papa, hein.
Donc là, c'est le pouvoir de la notoriété, de l'argent aussi.
Exactement. C'est un pouvoir qui n'est pas négligeable, hein. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et j'essaie de faire plaisir au-delà de leur plaisir, en fait. Je ne sais pas si c'est bien, mais je ne sais pas dire non.
Avoir une fille, c'est faire un crime.
Est-ce que vos filles, elles connaissent cette chanson?
elles ne connaissent pas cette chanson. Mais je vais leur faire écouter. C'est une très belle chanson d'amour.
Avoir une fille.
Un Marseillais qui demandait un autre Marseillais. Avoir une fille, Sébastien Elchâteau. C'était Frédéric, le choix de l'humoriste Redouane Bougueraba.
Redouane Bougueraba, que vous pourrez retrouver demain au cinéma dans le film Sur la route de papa.
Merci Frédéric et à demain.